Pour la saison 2 du balado, Christelle et Lucille ouvrent leur micro à des experts ou à des spécialistes en éducation.
Au programme, échanges, partages et discussions autour de l'intervention et de l'évaluation des apprenants en difficulté. Suivez-nous sur notre page Instagram.
Bonne écoute!
Aujourd'hui, nous ouvrons notre micro à Geneviève Saint-Denis, chargée de cours et étudiante au doctorat en psychopédagogie à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. Elle est également conseillère pédagogique en douance et en pratique inclusive au Centre des services scolaires des Samars. Ses champs d'intérêt portent sur l'inclusion, le numérique et la formation des enseignants. Bonjour Geneviève, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour à vous, merci beaucoup de l'invitation.
Alors comme je le disais, on voulait t'entendre nous parler de la conception universelle de l'apprentissage. Puis justement, on en entend parler de plus en plus en éducation. Qu'est-ce que c'est au juste et d'où proviennent ces pratiques?
D'accord. Bien, d'abord, la conception universelle de l'apprentissage, c'est une approche pédagogique qui est utilisée pour créer et mettre en œuvre des environnements d'apprentissage, des programmes et des évaluations qui seront accessibles à tous les élèves du groupe en prenant en considération surtout la diversité des apprenants. Donc, c'est vraiment important de pouvoir considérer en fait les différentes caractéristiques des élèves ici, mais tout en maintenant aussi des exigences élevées dans les apprentissages que feront les élèves. Si on pense à d'où proviennent ces pratiques, le cadre de la CUA s'appuie sur la conception universelle en architecture et en développement de produits qui a été élaborée par Ron Meis dans les années 1980. Le concept de l'universalité, en architecture met en évidence l'importance de rendre accessibles les environnements physiques pour tous les individus dès la conception, plutôt que d'adapter en fonction des demandes. Donc, on s'assure, en fait, que les individus pourront aller où ils veulent dans la bâtisse et qu'on nous aurons pas besoin d'ajouter par la suite différentes rampes d'accès, des éléments qui seront, en fait, plus coûteux par la suite et souvent qui ne sont pas nécessairement ajustés à l'architecture de notre bâtiment. Donc, il y a vraiment une réflexion en amont qui se fait pour cibler les obstacles potentiels en fonction des caractéristiques des personnes qui iront utiliser ces bâtiments ou tout simplement les éléments d'architecture et qui sont nécessaires, en fait, de prévoir des aménagements dès la conception. Donc, par exemple, les architectes, lors de la préparation d'un plan d'un immeuble public, vont prévoir différents aménagements comme des ascenseurs, des rampes d'accès qui permettront de répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite ou même des symboles pour contourner les barrières de la langue. Donc, c'est la conception universelle, c'est vraiment d'offrir plusieurs moyens d'atteindre un même but. Si on pense à l'apprentissage, on peut comprendre que la conception universelle vise la réduction des obstacles à l'apprentissage qui sont causés par l'interaction entre les caractéristiques des élèves et les pratiques pédagogiques, les ressources matérielles utilisées ou même les évaluations qui sont prévues en fonction d'un but d'apprentissage. Il faut donc avoir une réflexion en amont qui permet de prévoir les différentes rampes d'accès cognitif que l'on va mettre en place et qui permettront d'augmenter l'accessibilité au contenu d'apprentissage et par le fait même, l'engagement et la progression des élèves.
J'entends beaucoup que tu insistes sur la planification en amont, l'intention est de réduire les obstacles à l'apprentissage. Et justement, tu fais lien avec la classe. Quelles pratiques on peut mettre en place en amont pour offrir un environnement inclusif et accessible à toutes et à tous?
Oui, en fait, lorsqu'on réfléchit à ces différents obstacles-là, c'est vraiment de s'assurer de cibler qu'est-ce qui peut être problématique dans la classe en fonction de ce que nous utilisons et donc de prévoir différentes voies d'accès aux élèves pour leur permettre d'apprendre et de pouvoir s'engager dans les tâches et de pouvoir davantage progresser aussi. Donc, on vise vraiment l'accès en utilisant les trois principes du modèle de la CUA, soit le principe de la représentation, celui de l'action et de l'expression, et celui de l'engagement. Donc, en fonction des différents obstacles qu'on peut avoir relevés dans la classe, on pourrait tenter d'utiliser des moyens de représentation de l'information, par exemple, en utilisant d'autres portes d'accès que l'écrit pour accéder à différents éléments que l'on veut présenter aux élèves. Je pense, par exemple, à la vidéo ou même le balado, comme on fait en ce moment, où les personnes pourront accéder à un contenu, mais dans un format qui sera différent. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir un même contenu à présenter, mais en ayant différentes voies d'accès. Donc, par exemple, la vidéo qui pourrait avoir une transcription et qui permettrait donc à l'apprenant de pouvoir accéder à ce qui est dit dans la vidéo et de faciliter en fait l'accès pour tous les apprenants qui auront besoin d'aller chercher le contenu qui est présenté. On peut aussi penser à différents formats flexibles qui permettront de présenter l'information aux élèves et qui pourront les ajuster aussi en fonction de leurs préférences. Par exemple, l'utilisation des différents caractères, des polices d'écriture, la grosseur des caractères, ce qui permet aux élèves de vraiment s'assurer de bien lire le texte qui leur est présenté, donc faciliter en fait la lecture de ce texte-là. D'autres façons d'offrir une accessibilité meilleure aux élèves pourraient être de varier les méthodes pour démontrer les apprentissages. Donc, on pense davantage ici au principe de l'action et de l'expression. Par exemple, l'utilisation de la schématisation ou du dessin pour démontrer une compréhension d'une notion apprise peut faciliter pour certains élèves vraiment une présentation efficace de tout ce qu'ils ont appris. On a certains élèves qui peuvent avoir cet obstacle de transcrire en fait leurs pensées sur une feuille, souvent dans les activités qui sont écrites. On utilise encore beaucoup tout ce qui est format écrit. Donc, les élèves qui peuvent avoir certaines difficultés, justement, rencontrent des obstacles à pouvoir transmettre efficacement tout ce qu'ils ont retenu, tout ce qu'ils sont en mesure d'apprendre. Et ce qui fait en sorte que lorsqu'on regarde leurs travaux, mais ça ne fait pas une représentation complète de ce que l'élève est capable de faire. Tandis que si j'utilise d'autres moyens d'action d'expression, comme je disais, la schématisation ou le dessin pour certains élèves qui pourraient le privilégier, à ce moment-là, je pourrais aller voir une autre façon de présenter la notion. Je pense aussi aux mathématiques, où on demande souvent aux élèves de faire une démarche à l'écrit qui peut être parfois difficile, autant pour nos élèves en difficulté que nos élèves qui présentent une douance, qui veulent pas nécessairement faire la démarche parce qu'ils ont déjà compris la façon d'arriver à la réponse. Donc, à ce moment-là, d'utiliser d'autres façons de présenter la réalisation de cette démarche-là pourrait amener les élèves à vraiment démontrer davantage qu'est-ce qu'ils sont en mesure de faire, comme l'enregistreur d'écran qui permettrait de vraiment voir toute la démarche de l'élève et par la suite de soutenir davantage au niveau du processus chez l'élève pour l'amener à comprendre davantage. Sinon, tout ce qui est au niveau de l'enregistrement vocal qu'un élève pourrait nous transmettre, en fait, son processus, sa façon de penser, qui ferait en sorte que l'on pourrait accéder à toute cette richesse au niveau de ses réflexions, qui souvent, c'est difficile de transmettre tout ça à l'écrit parce que ça se bouscule dans la tête. Donc, à ce moment-là, on peut avoir davantage d'élèves qui sont impliqués.
Et tu parles d'enregistreur d'écran, peut-être avec un élève relativement habile à utiliser, faire sa démarche à l'écran avec des enseignantes de premier cycle. On a déjà placé dans un contexte où est-ce qu'il y avait des tablettes pas loin avec la caméra pointée sur l'élève. Là, juste le fait on parle de premier cycle, de manipuler des jetons et de permettre à l'élève d'expliquer un peu ce qu'il fait, répondait aux besoins de l'enseignante qui n'arrivait pas à chercher cette réflexion métacognitive de l'élève. Donc, on n'est pas obligé, je pense aux personnes qui nous écoutent, on n'est pas obligé d'être à 100% branché sur un ordi pour pouvoir faire ce genre de pratique.
Non, efficace. Effectivement, c'est vraiment de le voir de différentes façons. Donc là, je nommer davantage l'enregistreur d'écran, mais en effet, la caméra peut être un outil fort intéressant qui nous permet d'utiliser le matériel qu'on utilise généralement dans la classe et même tout simplement enregistrer la réflexion à l'audio de l'élève par un petit magnétophone ou tout simplement un vieux iPod peut faciliter cet accès à la réflexion de l'élève et donc d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de ce qui peut bloquer dans la façon de faire de l'élève. Et je pense d'ailleurs aussi en orthopédagogie, où ça peut être très utile pour l'orthopédagogue de mieux comprendre les difficultés de l'élève. Donc, à ce moment-là, il y a plusieurs outils et je pense même à plusieurs outils différents selon les élèves. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser les mêmes outils pour tous les élèves. C'est ici la beauté de prévoir différents moyens. C'est pas différents moyens en fonction des périodes, mais ça peut être différents moyens au sein de la même activité qui va vraiment amener les élèves à se présenter leur plein potentiel, donc être capable d'utiliser l'outil qu'on leur présente pour démontrer leurs apprentissages. Il y a aussi en lien avec l'engagement des élèves, qui est un principe qui est fort intéressant du modèle de la CUA, puisqu'on sait que l'engagement est un élément très important. On sait aussi que les élèves ne sont pas toujours engagés dans les différentes tâches qu'on propose, surtout lorsqu'on utilise beaucoup le papier-crayon. Les élèves peuvent avoir des difficultés. C'est pas nécessairement parce qu'ils ne veulent pas s'engager, c'est pas nécessairement parce que ils présentent une certaine paresse, mais parfois c'est tout simplement un problème d'accessibilité. Donc, s'ils ne sont pas capables d'accéder au contenu, si je vous présente par exemple un texte qui est écrit en italien et que vous comprenez pas du tout l'italien ou qu'on vous comprenez quelques mots, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de vous engager dans la tâche si je vous demande de me faire un résumé que si vous êtes en mesure de tout comprendre ou du moins une très grande partie du texte. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment se questionner sur l'accessibilité au contenu d'apprentissage pour les élèves pour s'assurer que vraiment il y aura engagement et donc on peut aussi prévoir différents moyens pour favoriser l'engagement, que ce soit des niveaux de difficultés différents par des activités qui pourront être graduées, du soutien aussi qui pourra être gradué en fonction de l'endroit où ce que l'élève est rendu, de son niveau de compétence qu'il a été en mesure de développer. Et ça peut être tout simplement des aides-mémoires, ça peut être tout simplement un dictionnaire imagé qui va pouvoir soutenir l'élève dans la production d'un texte, ainsi de suite. Mais on peut aussi avoir, je pense à des outils un peu plus numériques comme des exerciceurs, par exemple NetMath, qui permet d'avoir différents niveaux de complexité. Et donc, on vient chercher en fait l'engagement des élèves par le fait qu'ils peuvent débuter avec des activités qui sont davantage en lien avec leur niveau de compétence, donc qui sont dans leur zone proximale de développement. Et on va toujours les amener à aller encore un peu plus loin par aussi des rétroactions qui sont offertes soit par l'enseignant, soit par des pairs dans la classe ou même l'outil que nous utilisons. Et on va pouvoir amener les élèves à progresser là, dans le développement de leurs habiletés, dans leurs connaissances. C'est de cette façon qu'on peut augmenter en fait l'engagement des élèves, puis aussi de concevoir des activités qui ont des résultats d'apprentissage plus authentiques, qui sont communiqués à de vrais publics. Donc, ils ont vraiment un objectif qui est concret, qui sera clair pour les élèves et qui les amène à voir la pertinence de le faire. Donc, l'utilisation, par exemple, du courriel pour envoyer des messages à d'autres personnes, ou tout simplement la réalisation d'affiches pour présenter un événement dans l'école. Donc, les élèves pourront vraiment avoir un but qui est significatif pour eux, qui est authentique, puis ça les amène vraiment à favoriser leur engagement. Je pense aussi à des idées, des activités en classe là, qui vont favoriser l'utilisation de l'imagination pour résoudre des problèmes, d'être capable d'avoir un peu plus de complexité, de pouvoir résoudre des problèmes de manière créative. Donc, à ce moment-là, on vient toucher aussi beaucoup nos élèves qui ont une facilité au niveau des apprentissages où on va leur amener quelque chose à faire qui est un peu plus avancé. Donc, si on pense en fait à la pyramide de Bloom, là, où on a différents niveaux de complexité de la tâche, mais à ce moment-là, on est davantage dans les niveaux supérieurs. Donc, on amène vraiment un élève à faire appel à plusieurs ressources cognitives pour être capable de réaliser une tâche. En fait, ce qui est important à garder en tête de tout ça, c'est qu'il est vraiment gagnant de commencer en mettant en place des petits changements dans la classe. Hein. On ne veut pas nécessairement tout changer du jour au lendemain. Souvent, on réalise que il y a des éléments qu'on met en place qui font partie, en fait, des suggestions du cadre de la CUA, hein, des moyens qui sont proposés dans le guide. Puis, à ce moment-là, on constate qu'on est déjà en mesure de mettre en place certains moyens. Par contre, ils sont peut-être pas réfléchis, ces moyens-là, en fonction des obstacles qui peuvent être présents. Donc, pour aller encore plus loin, on peut amener cette réflexion en amont. Donc, c'est vraiment un élément important là, de la démarche au niveau de la CUA, où on va réfléchir en amont, comme l'architecte le fait pour la construction d'une bâtisse, parce que c'est beaucoup plus efficace, en fait, de prévoir en amont les différents moyens qu'on va mettre en place. Et ce sera aussi plus facile d'intégrer toutes nos adaptations, hein, outils techno, ainsi de suite, à notre planification, si on la réfléchit en ayant en tête toutes ces informations-là. Et donc, ça nous permet, en fait, d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus fluide et de faciliter aussi l'organisation en classe.
Justement, je pensais au lien que tu faisais par rapport à la planification. Tout ça me fait penser à... j'avais lu dans le Réseau international du processus de production du handicap, ça, il y avait une petite phrase, une courte phrase qui m'avait marquée qui disait « c'est la tâche qui crée la difficulté ». Et je trouve que ça représente, ça ressort beaucoup dans ce que tu nous expliques, qu'une tâche pourrait venir mettre des barrières à l'apprentissage de l'apprenant. C'est tellement important à prendre en considération. Tu as ouvert la porte, en fait, au numérique, aux outils d'aide. Comment ces outils d'aide en ligne ou le numérique, peu importe comment on veut les appeler, peuvent venir en aide à tous les élèves? Et je parle de tous, non seulement celles et ceux qui ont des troubles d'apprentissage. Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça?
Oui, en fait, je fais un lien avec ce que tu viens d'aborder au niveau des obstacles, au niveau de la classe que certains élèves peuvent vivre des obstacles. Les outils numériques, c'est sûr que au niveau de la CUA, ce sont des outils qui vont permettre d'offrir davantage de possibilités. Donc, la CUA n'est pas seulement le numérique. Hein. On peut utiliser des moyens qui sont présentés là pour les différents principes, avec plusieurs outils possibles, manipulables dans la classe sans utiliser le numérique. Par contre, le numérique amène cette flexibilité au niveau des options qu'on peut offrir aux élèves. Donc, je pense particulièrement aux outils d'aide, aux fonctions d'aide comme la synthèse vocale, comme les outils en numérique, en mathématiques, tout simplement Antidote, qui est utilisé comme correcteur, réviseur pour certains élèves. Ce sont des outils qui peuvent être utilisés en apprentissage pour tous les élèves qui permettent de développer des compétences. Donc, on veut amener les élèves à développer leurs compétences pour ensuite voir, lors de l'évaluation, où est-ce qu'ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Donc, il y a des fonctions d'aide qui peuvent offrir une rétroaction qui est très efficace aux élèves et qui permet donc à chacun de pouvoir se réajuster au fur et à mesure de la réalisation de l'activité, de favoriser aussi une réflexion. Je pense à Antidote qui pourrait permettre aux élèves de réfléchir par rapport aux différentes erreurs qui se présentent dans le texte, par rapport aux différentes suggestions faites par le logiciel et qui permet vraiment de se questionner. Et surtout aussi de soutenir l'enseignant dans la réalisation des différentes tâches, puisque si j'amène, par exemple, mes élèves à utiliser la synthèse vocale, qui est un outil pour habituellement soutenir les élèves qui ont une difficulté au niveau du décodage, je pourrais l'utiliser lors de l'écriture, par exemple, avec les élèves, qui leur permettrait de pouvoir réécouter leur texte. Vous l'avez sûrement déjà expérimenté. Là, je pense que tout le monde a déjà fait un texte écrit dans sa vie. Lorsqu'on écrit notre texte, on a nos idées dans notre tête, on est capable de relire en fait notre texte, mais on voit pas nécessairement toujours les erreurs au niveau de la structure, au niveau de l'orthographe, de la ponctuation, parce qu'on est encore très dans notre texte. Donc, si on utilise une rétroaction qui est autre que nous, ça pourrait être par exemple un père, l'enseignant, mais on n'a pas toujours accès à ces ressources-là. Donc, l'utilisation de la synthèse vocale, de la fonction d'aide, pourrait permettre une relecture du texte et donc d'aider l'élève, en fait, à cibler, à vraiment aller chercher les petits éléments qui pourraient être problématiques dans le texte et revoir, en fait, par la suite, bon, la structure peut-être, la phrase, la ponctuation, parce que ça peut nous aider vraiment à s'assurer, en fait, que chaque phrase a bien un point à la fin. Donc, ça, c'est un outil que l'on prévoit la plupart du temps que pour les élèves qui ont de grandes difficultés au niveau du décodage, mais qui peut finalement être très utile. Je pense aussi aux élèves, en fait, qui sont en apprentissage du français, hein, nos élèves allophones qui ont encore des difficultés importantes au niveau de la lecture en français. À ce moment-là, la synthèse vocale peut venir soutenir le développement de cette compétence. Ou même un élève qui a tout simplement oublié ses lunettes à la maison puis qui est vraiment incapable de lire parce que ses lunettes sont très importantes, mais à ce moment-là, il pourrait tout de même faire l'activité puisqu'on a d'autres façons d'accéder au texte qui pourraient être la synthèse vocale.
Les exemples me font penser aux outils aussi d'accessibilité qui l'étaient, mais encore de plus en plus présents dans nos appareils intégrés, peu importe vraiment que ce soit un ordinateur, peu importe la marque, que ce soit un Chromebook qu'on trouve beaucoup dans les écoles ou une tablette. Il y a des éléments intégrés, peut-être qu'on pourra mettre en lien, en fait, une page, je pense au récit d'inclusion et d'adaptation scolaire qui décortique, ben, en fonction de l'appareil que l'élève utilise, comment aller jouer sur le Zoom. Tantôt, tu as parlé peut-être de contrastes ou des couleurs ou une accessibilité visuelle. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller sans même télécharger, acheter une application, voir comment le tout peut répondre aux besoins de l'élève.
Effectivement, il y a quand même beaucoup d'applications maintenant qui sont gratuites. Donc, justement, synthèse vocale, prédiction de mots, correction, on pense à tous les outils qui sont disponibles sur un appareil numérique personnel. Mm-hmm. Et ce sont des outils qui sont utilisés par beaucoup de personnes sans nécessairement qu'on se pose la question « est-ce que c'est vraiment nécessaire comme utilisation? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? » À ce moment-là, je veux l'utiliser, donc ça devient pertinent. Puis, on le fait d'emblée. Donc, pourquoi pas utiliser ces outils-là qui sont souvent à la disposition pour les élèves, souvent en ayant aussi une intention très précise derrière toute cette réflexion.
C'est exactement ça, Geneviève. Ça me fait penser, en fait, on pense que c'est gros, mais on fait déjà des actions. Fait que c'est juste de les conscientiser un peu plus et de voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais tu sais, de prendre ça un pas à la fois, parce que sinon, ça devient trop surcharge cognitive pour nous, même les enseignants. Donc, on met déjà en place des actions, fait que tant mieux et qu'on s'en rend compte et on les célèbre, ces petites actions-là qu'on met en place, et de voir qu'est-ce que nous, on utilise dans notre quotidien pour après les mettre au service des besoins de l'élève et justement de mettre ça en amont. Et au début, peut-être, ça peut être prendre du temps de faire cette réflexion de en amont, qu'est-ce que je peux faire, mais une fois que cette réflexion-là est faite, elle est faite pour toute l'année scolaire. Fait que ça, c'est aussi un gain de temps pour le reste aussi de l'année scolaire.
Effectivement. Et c'est sûr que bon, là, on parle beaucoup d'outils numériques. Je pense à certains enseignants qui pourraient se dire, mais moi, j'ai seulement 5 ordinateurs dans ma classe, donc ça devient complexe. Mais lorsqu'on veut mettre en place ces outils-là, on n'est pas obligé de les offrir à tous les élèves. On peut les offrir et certains vont choisir d'aller vers les outils numériques. Il y en a d'autres qui préfèrent moins l'utilisation des outils numériques. Et je pense à une enseignante là, qui a participé à ma recherche sur justement l'utilisation des aides technologiques dans un contexte où on met en place les principes de la CUA. Puis, elle avait utilisé la synthèse vocale, l'outil de synthèse vocale avec tous ses élèves dans la classe. Et la majorité ont bien aimé, mais ont clairement indiqué qu'ils préféraient en fait utiliser le texte écrit standard sur une feuille de papier parce que c'est vraiment, ils étaient en mesure de lire plus rapidement. La synthèse vocale, c'est pas nécessairement une lecture super intéressante. Là, on n'est pas avec un livre audio sur une application où il y a de l'intonation, il y a des petites musiques derrière, ainsi de suite. Ce qui fait en sorte que les élèves qui en ont pas besoin, qui préfèrent vraiment poursuivre une lecture qui est traditionnelle, vont délaisser facilement la synthèse vocale. Par contre, il y a d'autres élèves qui ont constaté, avec l'utilisation de la synthèse vocale, qu'ils étaient en mesure de mieux comprendre ce qui avait été présenté dans le texte. Donc là, ça devient intéressant. parce qu'on pourrait avoir des élèves qui vont utiliser cette synthèse vocale-là pendant les apprentissages parce que, bon, le texte est peut-être un peu plus long, il est peut-être un peu plus complexe. Donc, on veut s'assurer d'avoir une très bonne compréhension. À d'autres moments, ils utiliseront un livre normal, comme tous les autres. Donc, c'est vraiment de permettre, en fait, aux élèves de pouvoir expérimenter différentes façons de faire et qu'ils puissent aussi se connaître davantage dans tout ça et d'être capable d'aller chercher les outils qui seront les plus susceptibles de les aider à développer leurs apprentissages et d'être capable de soutenir tout ça.
Il y a un beau lien à faire avec justement la responsabilisation de cet apprenant. Puis ça me fait beaucoup penser à l'autonomisation ou le empowerment qu'on dit en anglais de OK, je connais plusieurs outils, lequel je devrais utiliser pour m'aider aujourd'hui, un autre demain. Vous avez toutes les deux fait un lien un petit peu avec ma prochaine question. Donc, d'une part, Lucille, en lien avec la peut-être réduire ou alléger en quelque sorte la planification de l'enseignante ou de l'enseignant, puis justement offrir différentes possibilités pour que tous les élèves de la classe un peu apprennent à connaître ces outils-là. Peut-être également, on peut faire un petit lien, Geneviève, avec réduire cette stigmatisation qu'on peut retrouver si un élève seul dans sa classe utilise les outils techno. Quel lien on peut faire avec cette utilisation universelle en classe, la pertinence d'introduire tous nos élèves à ces outils?
Oui, mais en fait, l'utilisation qui est plus universelle du numérique fait en sorte que l'acceptation des aides technologiques par les élèves qui en ont vraiment besoin va être facilitée. Du fait que je suis plus la seule personne dans la classe à utiliser un ordinateur avec le traitement de texte, ainsi de suite, d'autres élèves pourraient aussi l'utiliser. À ce moment-là, je me sens moins comme identifiée comme l'élève en difficulté parce que moi, j'ai un ordinateur. Donc, si c'est un outil qui est utilisé largement dans la classe, qui peut, en fait, être utilisé différemment. Donc, j'ai pas besoin d'avoir un ordinateur par élève, mais le fait d'offrir l'utilisation des ordinateurs par n'importe qui dans la classe peut faire en sorte que les élèves qui, eux, en ont vraiment besoin et qui ont un portable, seront peut-être plus engagés dans l'utilisation de ces outils-là. Et pour avoir, en fait, travailler auprès de plusieurs élèves là, qui avaient des ordinateurs, surtout au troisième cycle, début secondaire, on sent cette réticence à l'utilisation des outils numériques parce que on se retrouve seul, on se retrouve vraiment sous l'effet d'un projecteur où on a l'accent qui est mis sur nous. Et donc, ça peut amener cette difficulté à l'utiliser parce que je veux pas être différent des autres, parce que je veux pas qu'on m'identifie à des difficultés. Donc, à ce moment-là, le fait de l'utiliser de façon universelle pourrait réduire cette stigmatisation. Et aussi, ce que ça peut permettre, c'est surtout d'assurer une certaine fluidité dans l'utilisation de ces outils-là dans mon activité, puisque j'ai réfléchi en amont à la façon d'utiliser ces outils pour permettre aux élèves soit de s'engager, soit d'être capable de me représenter, de faire un travail, de présenter ce qu'ils ont appris. Donc, l'utilisation va être beaucoup plus simple que si j'ai prévu mon activité et que par la suite, je me dis, ah oui, c'est vrai, j'ai 2-3 élèves qui ont besoin d'avoir des aides technologiques. Donc là, je dois réintégrer ces aides technologiques-là, mais mon activité n'est peut-être pas prévue pour avoir des aides techno. Donc, je dois changer la lecture qui est à faire, je dois changer le format des réponses, ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup plus difficile, moins fluide, en fait, de les intégrer par la suite que si je le réfléchis d'abord et qu'ensuite je le propose différents moyens à tous.
Intéressant, mais justement, tu nous as parlé de la CUA, comment ça découle en classe, les différents exemples. On a parlé de l'apport du numérique, d'avoir une intention justifiée aussi. Je me permets une petite parenthèse, je pense aux personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas de voir dans votre milieu qui sont les personnes ressources, parce qu'on dit souvent, ah, il y a ça et ça et ça, mais qui nous aide dans tout, dans le tout. Donc, s'il y a des orthopédagogues, des enseignants qui nous écoutent, il y a beaucoup de conseillers pédagogiques prêts pour ça. Il y a des services un peu provinciaux comme le Récit, entre autres. Il y a toujours notre courriel aussi qu'on met en dessous des balados. Si vous voulez vous renseigner davantage, on pourra vous relayer vers des personnes ressources. Alors, Ça m'amène à notre dernière question aujourd'hui. Pour aller concrètement, en fait, dans l'application de la CIUA, est-ce que tu peux nous partager un ou deux exemples concrets pour mettre en application la conception universelle de l'apprentissage, que ce soit en contexte de classe ou en orthopédagogie?
Oui, en fait, il y a un exemple que j'aime particulièrement parce que je le trouve peut-être quand même assez simple à ajuster. Ça peut être déjà un premier pas à faire pour augmenter l'accessibilité des élèves, que ce soit en classe ou que ce soit en orthopédagogie. En fait, cet exemple-là, je le vois bien pour les deux milieux, puisque c'est vraiment en lien avec la représentation de l'information. Donc, lorsque je veux permettre à mes élèves d'accéder à de l'information, donc de quelle façon je pourrais prévoir de présenter cette information-là? Mais quand on pense aux classes, aux groupes en orthopédagogie, ils ont tous des caractéristiques à nos élèves. Et je pense pas simplement aux difficultés, aux diagnostics qui peuvent être présents. Là, je pense vraiment à toutes sortes de caractéristiques, que ce soit la langue maternelle des élèves, la langue parlée à la maison, que ce soit le milieu dans lequel ils peuvent grandir, oui, en fait, les difficultés et autres. Donc, tout ça nous amène à des différents obstacles qui peuvent survenir, surtout lorsqu'on voit le contenu écrit. Donc, à partir de la troisième année, on sait que beaucoup d'apprentissages se font par la lecture. Donc, à partir du moment où il y a un certain obstacle à la compréhension de l'information, à la compréhension du vocabulaire, tout simplement en lien avec la perception de l'information qui est présentée, à ce moment-là, beaucoup d'élèves, en fait, ont vraiment un accès très limité à ce qui peut être présenté. Donc, que ce soit, je pense vraiment à d'autres matières comme l'univers social, où je veux amener mes élèves à apprendre une notion en univers social, si je passe uniquement par la lecture, par un texte qui est non flexible, à ce moment-là, les élèves ont vraiment de la difficulté à se représenter toute l'information qu'on leur présente. Donc, pour faciliter l'accessibilité, on pourrait présenter, en fait, l'information à l'aide d'un texte numérique. Donc, qu'il y a peu d'images qui sont présentes, où on pourrait mettre aussi en évidence des mots dans le texte. C'est sûr qu'on amène une certaine réflexion en amont où on doit cibler différents mots qui, selon nous, nous semblent peut-être problématiques pour les élèves. Donc, de mettre des hyperliens sur ces mots-là qui permettraient d'accéder à des définitions, tout simplement des images parfois qui permettent de faire un lien avec peut-être une autre langue. Donc, si je vois une image, je suis en mesure de me représenter qu'est-ce que ça veut dire le mot, même si je le connais pas en français. Ça pourrait être aussi d'accéder à des traductions même. Donc, à ce moment-là, les élèves peuvent aller plus loin dans leur compréhension du contenu parce qu'ils ont accès à toutes ces petites variables-là qui permettent d'aller chercher l'information qui est manquante pour augmenter la compréhension. Ça permet aussi aux élèves, comme on l'a nommé plus tôt, de pouvoir réajuster par eux-mêmes, donc l'autonomie qu'on parlait, où ils sont en mesure de pouvoir ajuster la police de caractère, la couleur. Parfois, on a même des élèves qui ont besoin d'avoir un fond d'une autre couleur. Donc, à ce moment-là, les élèves peuvent être en mesure de le faire par eux-mêmes. Donc, on amène les élèves à devenir autonomes dans leurs apprentissages. Ça peut être aussi de faciliter l'utilisation des fonctions d'aide. Donc, mon document que j'ai créé ou que j'ai ajusté pour augmenter l'accessibilité, mais sera facilement utilisé par les élèves qui ont une fonction d'aide telle que la synthèse vocale, puisque mon texte est déjà numérique. Mais si j'ai des élèves qui ne veulent pas utiliser le numérique parce que, bon, c'est pas nécessairement leur préférence et c'est pas la voie d'accès qu'ils préfèrent, on peut tout simplement imprimer ce texte-là ou ce texte-là pourrait tout simplement provenir d'un cahier d'activité ou de quelques ressources qu'on a déjà dans la classe ou en orthopédagogie. Donc, à ce moment-là, ces petits éléments-là qu'on ajoute, et c'est pas nécessaire d'ajouter tout ça les premières fois ou dans le même travail, mais c'est de s'assurer, en fait, de cibler qu'est-ce qui sera vraiment essentiel pour réduire les obstacles. Si on est capable de réduire au moins un obstacle au départ, mais ce sera déjà très intéressant pour les élèves. Et par la suite, bon, c'est de voir aussi qu'est-ce qui nous convient, de quelle façon on est capable de s'ajuster. Tout ça en étant bienveillant aussi avec nous, mais en tentant de cibler là, quels sont les obstacles principaux pour agir sur ceux-ci. Donc, ça permet vraiment d'augmenter l'accessibilité et par le fait même, la plupart du temps, d'augmenter l'engagement des élèves et leur progression.
Si on peut réduire un obstacle à la fois, c'est déjà bien tout en l'ayant identifié au préalable. Merci beaucoup, Geneviève. Je précise qu'on va mettre les liens. En fait, on a parlé de quelques ressources, mais également un lien vers le modèle de la conception universelle des apprentissages en dessous des épisodes. Donc, pour les personnes qui veulent le consulter. Merci encore pour ton temps puis pour cette participation au balado, Geneviève.
Merci beaucoup.
Merci pour votre écoute. Nous dédicaçons cet épisode à la mémoire de Monsieur Jacques Langevin, qui a été un enseignant marquant de notre parcours à l'université. Fervent défenseur de l'accessibilité, il a consacré sa carrière à l'identification des besoins et des solutions pour faciliter l'apprentissage des jeunes ayant des incapacités intellectuelles. Si jamais vous avez aimé ce balado, on vous invite à nous laisser une recension, peut-être en 5 étoiles, et nous suivre pour être au courant des nouvelles publications. Le balado Micro ouvert sur l'orthopédagogie est une production de Lucille Denis et Christelle El Akouri en collaboration avec l'Association des orthopédagogues du Québec.
Vous avez aimé cet épisode? Vous souhaitez laisser un commentaire? Écrivez-nous sur notre page Instagram micro.orthopédagogie ou sur votre plateforme d'écoute préférée.